Il est 7h.
Nous donnerons des repères à la fois plus visibles et plus lisibles aux consommateurs sur chaque produit.
Des étiquettes avec des mentions plus explicites sur les risques liés à la surconsommation d'alcool. Nos informations dans ce journal au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, son plan contre le cancer. Et le grand gagnant se nomme Canal+, qui récupère les droits télé du foot français à petit prix, deux fois moins cher. Un répit, oui, mais très fragile pour la survie des clubs. Des vacances bien particulières s'ouvrent ce soir pour certains d'entre nous. Sous couvre-feu, bars et restaurants fermés, les craintes des professionnels du tourisme qui s'adaptent. Et puis quand un livre d'adolescent auto-édité tape dans l'œil de deux stars d'Hollywood qui rêve de l'adapter en série, la belle page de la fin de ce journal.
Juste après ce journal, EDF qui veut accélérer sur les EPR, l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette, le 15 de France de rugby est-il devenu un favori? Début du tournoi à destination demain, l'édito sport de Virginie Fulpin. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire, très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et eux aussi, ils l'ont fait, les patrons de Canal+, les abonnés amateurs de foot vont entendre à nouveau ces quelques notes qui annoncent traditionnellement les buts. La chaîne cryptée remet la main sur la Ligue 1, accord hier soir avec la Ligue.
Pour retransmettre les matchs jusqu'à la fin de saison, mais contre une somme deux fois moins élevée que ce qu'aurait payé la chaîne Mediapro, le diffuseur défaillant. 650 millions d'euros au lieu de plus d'un milliard.
Malgré cela, les clubs sont soulagés, eux qui récupèrent une partie de ces droits télé, Cyril de la Morinerie. Les présidents se disent que, même au rabais, c'est mieux que rien cet accord.
Oui, évidemment, les présidents de clubs sont soulagés. L'essentiel a été obtenu, la survie, résume le président de l'AC Ajaccio et membre du comité de pilotage, Christian Leca.
On est toujours en vie, on est gravement blessé, on va se soigner. Parce que cette solution, c'est la moins pire qu'on ait pu trouver. Et je dois remercier toutes les équipes de la LFP pour s'être battues comme des chiens, pour en arriver à cette extrémité qui nous est, je dirais pas favorable, mais salvatrice.
Car les pertes sont colossales, les droits TV sont divisés par deux. Ajoutez à cela l'absence de recettes billetterie et des prêts qu'il faudra tôt ou tard rembourser. Les clubs ont évité le dépôt de bilan, mais ils vont devoir se serrer la ceinture, confirme Claude Michy, président de l'UCPF, l'un des deux syndicats de clubs.
Il y a des moments où dans la vie, il faut se satisfaire de ce qui existe. La gestion des clubs va s'en ressentir. Hein.
Baisse des salaires, départ de salariés, tout est désormais envisageable. Caen et Bordeaux n'ont pas attendu l'accord avec Canal+, pour entamer un plan social.
Accord avec Canal+, valable jusqu'à la fin de la saison. Nouvelle négociation, sans doute donc l'été prochain.
7h03 sur Europe 1, Jean Castex durcit le ton.
Face à un niveau d'épidémie de coronavirus toujours haut, bien que stable, pas de reconfinement, mais prudence, a lancé hier le chef du gouvernement qui autorise les déplacements partout en France pendant les vacances qui démarrent ce soir.
Plus que jamais, nous devons éviter tout relâchement. Comme vous l'avez fait à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous invite à la plus grande prudence durant ces congés.
Des vacances d'hiver bien singulières, une France sous couvre-feu, musées, restaurants, bars fermés, comme la plupart des hôtels, c'est donc l'inconnu. Pour ceux qui vivent du tourisme, Frédéric Michel les a rencontrés à Juan-les-Pins sur la Côte d'Azur.
Il n'y a personne. Regardez la rue, elle est désespérément vide.
Cette commerçante, même en hiver, n'avait jamais vu si peu de monde à Juan-les-Pins. Et les vacances de février s'annoncent bien calmes dans la station balnéaire. Frédéric Brac dirige un complexe hôtelier.
Pour l'instant, on a des réservations sur la partie résidence hôtelière. Sur la partie hôtel, on est à 2-3 chambres chaque nuit sur 65. Tout aujourd'hui, encore plus qu'avant, est vraiment du dernier moment. Je veux dire, les réservations se font le jour même.
À Antibes, Juan-les-Pins, seuls 6 hôtels sur 50 sont actuellement ouverts. D'habitude, février marque le retour des touristes, mais avec les restrictions, il est difficile d'attirer des clients. Henri Maté est le président local de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Tant que nos restaurants seront fermés, à quoi ça sert que vous mettez une chambre qui coûte, je sais pas moi, 150 euros, que vous allez dire, je la vends 50 euros. Il n'y aura pas plus de monde, hein. Parce qu'il n'y a rien. Le mec, il va faire quoi? Il ne peut même pas aller au cinéma. Je ne peux pas leur faire un repas dans ça. Je ne peux pas. À part organiser des soirées pyjama. Mais encore.
Permettre aux restaurants d'ouvrir leurs terrasses, c'est l'une des demandes de ces professionnels pour sauver ces vacances de février. Juan-les-Pins, Frédéric Michel, Europe 1.
Et lorsque tout le monde sera rentré de vacances, dépistage massif dans les écoles et les universités via des tests salivaires moins désagréables que les écouvillons des PCR.
Côté vaccination, le gouvernement entend accélérer la campagne. Il vise une première injection pour au moins 4 millions de Français d'ici à la fin du mois.
Grâce notamment à l'ouverture d'1 700 000 rendez-vous supplémentaires pour les plus âgés, mais aussi grâce aux premières doses d'AstraZeneca utilisées dès demain.
Une première génération de non-fumeurs d'ici 2030. C'est l'un des axes forts du plan de lutte contre le cancer dévoilé hier par Emmanuel Macron. L'autre priorité, c'est le renforcement de la prévention contre l'abus d'alcool.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Chef du service société d'Europe 1, l'alcool en France, deuxième cause de mortalité par cancer.
Oui, 16 000 décès par cancer chaque année sont dus à la surconsommation d'alcool, selon les tout derniers chiffres de Santé publique France, notamment des cancers de la bouche, de l'œsophage, du larynx ou du foie. Il faut dire qu'en moyenne, chaque Français de plus de 15 ans consomme annuellement près de 12 litres d'alcool pur. C'est un chiffre qui baisse de façon continue depuis les années 60, mais qui reste à un niveau très élevé, la France se classant 6e parmi les 34 pays de l'OCDE. Alors ce plan cancer, il va donc s'attaquer notamment à deux problèmes. D'abord, celui de la consommation régulière d'alcool, qui concerne plutôt les plus âgés. Une personne sur quatre de plus de 65 ans consomme de l'alcool quotidiennement. Et puis, deuxième axe, les jeunes, c'est le fameux binge drinking. 13% des 18-24 ans déclarent avoir été ivres au moins 10 fois dans l'année. Santé publique France rappelle son message, 2 verres par jour maximum et pas tous les jours. Message qui devrait donc, selon les déclarations d'Emmanuel Macron, être accompagné par des repères plus visible et plus lisible directement sur les bouteilles.
Alors justement, je me tourne vers vous, Jean-Jacques Herry. Ces repères, ces pictogrammes plus lisibles, des experts devraient se pencher rapidement sur la question. Vous en savez plus ce matin, qu'est-ce qui pourrait changer ?
Eh bien, d'après nos informations, on pourrait voir apparaître sur les étiquettes des bouteilles des mentions plus explicites, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Et ça, eh bien, même si ça modifierait le visuel et l'apparence de la bouteille, pas sûr que ça fasse baisser la consommation. J'ai posé la question à Franck Saint-Denis, il est caviste à Paris.
C'est sûr, ça va pas être beau si on met des grosses photos sur les étiquettes de vin. C'est sûr, ça va gâcher un peu le produit. Et maintenant, indiquer sur la bouteille, je pense que ça a aucune nécessité. Ça empêchera pas les gens qui boivent avec excès de continuer à boire avec excès. Tout doit se jouer dans l'éducation, expliquer aux jeunes que c'est un produit noble et que c'est un produit qui doit être apprécié à sa valeur.
Et chez les jeunes, les principales cibles de la mesure, on est encore plus tranché.
Je bois beaucoup plutôt de la bière et puis du martini et pas mal de vin aussi. Mais non, je pense pas que ça change quoi que ce soit.
En bar, du coup, ça changera absolument rien, quoi. Les gens, ils verront pas l'étiquette et ça changera rien pour eux. Ça me fait un peu penser à ce qu'ils font pour les cigarettes. Ce serait surtout les changements de prix qui feraient changer les consommations, à mon avis.
Ouais, on le comprend donc, Jean-Jacques, c'est loin d'être gagné, d'autant que dans ce domaine, la volonté politique se retrouve confrontée au lobby du vin et des spiritueux.
Et oui, en France, s'attaquer à l'alcool, c'est toujours un peu compliqué, parce que la France, dans l'imaginaire collectif, c'est le pays du vin, et lorsque les pouvoirs publics cherchent à légiférer sur la consommation d'alcool, c'est sur ce terrain-là que les lobbies ripostent immédiatement. La culture française contre les hygiénistes empêcheurs de tourner en rond. Ces alcooliers, ils ont énormément de relais et ils arrivent très bien à peser sur les débats. Je vous donne 3 exemples concrets. Le Dry January, d'abord le janvier sec, une opération lancée l'an dernier en France. L'idée, c'est de ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier afin de prendre du recul sur sa consommation. Au départ, l'opération devait être soutenue par l'Agence nationale Santé publique France. Sous la pression, finalement, l'État ne s'est pas impliqué, alors que chaque mois de novembre, les pouvoirs publics soutiennent pourtant le mois sans tabac. Autre exemple, le logo interdit aux femmes enceintes, qui doit figurer sur la contre-étiquette des bouteilles d'alcool. Le gouvernement n'arrive pas à imposer un agrandissement de sa taille. Les alcooliers bloquent toute discussion au-delà de 8 mm, trop mortifère en termes d'image, selon eux. Et puis enfin, en France, jamais on n'a réussi à imposer un prix plancher sur l'alcool, c'est-à-dire un prix minimum en dessous duquel on ne peut pas vendre 1 litre d'alcool, malgré l'efficacité reconnue de la mesure pour limiter la consommation à risque.
Le dossier du journal de 7h, signé ce matin Jean-Jacques Herry et Mathieu Charrier. À l'unanimité, les députés ont adopté cette nuit le délit de séparatisme, l'une des mesures phares du projet de loi dit confortant les principes de la République. 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende en cas de violence ou de menace sur un élu ou une personne du service public. Mesure voulue par le gouvernement après l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier. Le leader d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique a été arrêté en octobre dernier dans l'est du Yémen, dévoile un rapport de l'ONU publié ce matin. Opération au cours de laquelle son commandant en second a trouvé la mort, tout comme plusieurs autres membres du groupe terroriste.
Il est 7h09 sur Europe 1 et nous vous racontons pour finir la belle histoire de Caroline et Antoine Fruchard. Ils sont frères et sœurs. Adolescents, ils ont entamé l'écriture d'un livre qui va peut-être leur ouvrir aujourd'hui les portes d'Hollywood.
Un roman auto-édité, diffusé sur Internet et qui a tapé dans l'œil des lecteurs, mais aussi d'un couple de stars, Nicolas Caro.
Adolescents passionnés de lecture, Carole et Antoine s'amusent à écrire une histoire avec une fin extraordinaire. Ils la couchent sur le papier, puis ils la laissent dans un tiroir. 10 ans plus tard, ils terminent « Les carnets rouges », c'est le titre, et publient le roman sur des plateformes d'auto-édition. Succès immédiat, 15 000 lecteurs, et parmi eux, Clément Giraudet, homme d'affaires, et mari de l'actrice américaine Robin Wright. La suite, c'est Antoine Fruchard qui la raconte.
J'appelle ma sœur Carole en lui disant « Écoute, tu ne vas pas me croire ». Mais l'actrice de House of Cards et Forrest Gump adore l'histoire et l'imagine comme une série. Donc on est à la fois stupéfait, incrédule et en même temps extrêmement enthousiaste parce qu'on a toujours visualisé notre livre comme un film ou en tout cas comme une saison. On a du mal à y croire, c'est un peu la réalité qui dépasse la fiction. Et on se dit, bah, on a bien réussi à écrire un livre, à l'auto-publier, et on va tout faire pour que ce projet puisse avancer.
Avec un tel potentiel, cette fois, l'édition classique se bouscule pour le publier. C'est HarperCollins qui décroche le contrat pour ce premier roman, et 2 autres devraient suivre. Il s'agit d'une trilogie.
La belle histoire racontée par Nicolas Caro, c'est pas mal, Mathieu. Claire Underwood, House of Cards et Jenny de Forrest Gump qui accrochent sur votre livre. C'est classe.
C'est un peu chic. Hein, c'est élégant. Merci beaucoup. Jérôme Lacroix, il est 7h11. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Invité exceptionnel à 7h40. Sa parole est rarissime, mais il la prend pour se défendre et pour défendre ses agents. Le patron de Frontex, l'agence de garde frontières de l'Union européenne, accusé de refouler illégalement des migrants sans qu'ils ne puissent demander l'asile. Il répond à ces accusations ce matin en direct dans ce studio. Le patron de Frontex est français, Fabrice Leggeri, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors que l'avenir même d'EDF fait l'objet de discussions avec Bruxelles, l'électricien français avance sur ses projets de réacteurs EPR.
Oui, alors vous savez, le sort fait à EDF relève de la quadrature du cercle. Il est obligé de se projeter sur le très long terme, de penser à un horizon de plusieurs décennies, alors même qu'il est maintenu dans l'incertitude la plus grande sur son modèle économique et sur le contour même de ses activités. Je m'explique. Comme vous le savez, la France a accepté d'ouvrir le secteur de l'électricité à la concurrence. Or, cela a de multiples conséquences lourdes pour EDF. Bruxelles considère que pour garantir une concurrence équitable, eh bien, il faut séparer la production d'électricité de sa distribution, bref, découper EDF. Et encore, parmi les activités de production, il faut distinguer le nucléaire du reste, le renouvelable et les barrages hydroélectriques que l'État français ne veut absolument pas ouvrir à la concurrence.
Oui, bon, en clair, il faut totalement réorganiser EDF.
Exactement. Alors, ce projet a un nom en interne, Hercule. Il est actuellement âprement discuté avec Bruxelles, sachant que le gouvernement français, tout comme les syndicats d'EDF d'ailleurs, a posé une ligne rouge. Pas question de remettre en cause l'intégrité du groupe EDF. Alors, comment fait-on pour séparer le nucléaire d'un côté, les autres activités de production et la distribution sans toucher à l'intégrité du groupe ? Personne n'a trouvé la formule magique. On en est là, avec ces questions, je dirais, existentielles qui se posent pour l'avenir d'EDF. Il n'y a pas de réponse, nous sommes dans le brouillard. Or, dans le même temps, EDF, je le disais, est obligé de penser à l'avenir. Et l'avenir, à moins de renoncer à la réduction des émissions de CO2, eh bien, ça passe par le renouvellement du parc nucléaire.
Et donc par la construction de nouveaux EPR.
Et voilà pourquoi EDF avance, envers et contre tout, dans son projet de construction de 3 paires de nouveaux EPR, les EPR2, dont il vient de soumettre le design à l'autorité de sûreté nucléaire. Le feu vert pour leur construction, le gouvernement l'a dit, ne pourra pas intervenir avant que l'EPR de Flamanville ne soit mis en service, dans environ 2 ans. Mais en attendant, eh bien, il est crucial d'avancer pour ne pas perdre en compétences et maintenir des savoir-faire dans toute la filière. Alors, quand on prend un peu de recul, dans les années 70-80, l'âge d'or de la construction du parc nucléaire, nous savions réfléchir à long terme. Aujourd'hui, vous le voyez, EDF doit travailler à l'avenir du nucléaire, qui est un atout majeur pour notre pays, sans savoir ce que sera son propre avenir. C'est tout de même ubuesque. On chercherait à se tirer une balle dans le pied, on ne s'y prendrait pas autrement.
Merci Nicolas Barré, il est 7h16 sur Europe 1. Vincent Hervouet est avec nous, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin, Vincent, de l'assassinat d'un intellectuel qui critiquait le Hezbollah au Liban.
Oui, Lokman Slim a été retrouvé dans sa voiture sur une route de campagne au Liban Sud, une balle dans le dos et 1, 2, 3, 4, 5 dans la tête. Il n'a peut-être pas vu les tueurs, mais il connaissait l'assassin, il l'avait dénoncé à plusieurs reprises. Nabih Berri, le chef d'Amal, et Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, les deux parrains de la communauté chiite. Lokman Slim lui-même était chiite, mais dissident, c'est l'honneur d'un intellectuel. Il avait créé une maison d'édition, des essais, des documentaires, il avait 58 ans, il n'avait pas peur de la mort. L'an dernier, il avait organisé une rencontre entre des chiites et le secrétaire d'État adjoint américain chargé du Proche-Orient. Quand des affiches dénonçant le traître ont été placardées sur sa maison, en plein fief Hezbollah, quand des foules hargneuses l'ont assiégé, quand il a été menacé de mort, il a prévenu publiquement que s'il lui arrivait malheur, la responsabilité serait celle de Nabih Berri et d'Hassan Nasrallah. Il n'y a aucune raison d'en douter.
Et l'enquête ne fait que commencer.
Et elle n'ira pas plus loin. Au Liban, on sait tout de suite qui a fait le coup. Le temps passe, le dossier d'instruction reste vide, mais les langues se délient. Les complotistes qui imaginent des provocations du billard à deux ou trois bandes sont déçus. C'est bien celui à qui le crime profite qu'il a commis. Et le comble, c'est qu'il n'est jamais condamné. Une exception, l'été dernier, quand le tribunal spécial pour le Liban a jugé quatre membres du Hezbollah pour l'attentat contre le Premier ministre Rafik Hariri, 15 ans d'enquête pour 4 lampistes et un seul qui est condamné par contumace, le procès le plus cher et le plus dérisoire dans l'histoire du terrorisme. La famille de Lokman Slim doit récupérer son corps pour une autopsie privée. Sa veuve veut une enquête internationale et que les tueurs soient punis.
Est-ce qu'elle va l'obtenir ?
Elle est comme son mari, elle réclame la justice, la vérité, mais sans illusion. Ça fait 6 mois, jour pour jour hier, que le port a sauté, qu'une partie de Beyrouth a été soufflée. Cela n'a pas ébranlé le pouvoir du Hezbollah. Il a noyauté l'État, il a interdit toute réforme. L'élan de solidarité internationale s'est brisé sur cette incurie. Le Liban s'enfonce et le Hezbollah ne supporte plus aucune voix critique.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent. 7h18 sur Europe 1. Et tout de suite, après une tournée d'automne prometteuse, le 15 de France débute son tournoi des 6 nations ce week-end. Le retour en grâce du 15 de France grâce à Fabien Galthié, l'édito sport de Virginie Fulpin dans un tout petit instant. Juste avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. A tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le tournoi des 6 nations commence demain. Le 15 de France joue en Italie pour son premier match et on peut nourrir de grands espoirs, notamment grâce au sélectionneur Fabien Galthié. Pour vous, c'est un peu le magicien des Bleus. En un an, il les a fait passer de risée du rugby mondial à potentiel champion du monde.
C'est fou ce qui peut se passer en une année. Hein.
N'est-ce pas ?
Regardez, il y a un an, on ne savait pas trop ce que c'était, une pandémie mondiale. Le foot français regardait Canal Plus de haut, hein, perché sur son milliard d'euros virtuel, et le 15 de France pointait aux abonnés absents. Et puis Fabien Galthié est arrivé pour remettre de l'ordre dans la maison. Alors il ne peut rien faire contre le virus, hein, mais sa baguette magique a transformé les Bleus. Il y a des gens comme ça qui sont des leaders naturels que vous pourriez suivre au bout du monde les yeux fermés, et Fabien Galthié en fait partie. Il a fait cravacher cette équipe de France, la remodeler, rajeunir. Il lui a imposer une discipline perdue de vue depuis trop longtemps. Et quand vous commencez votre règne en envoyant les Anglais sur les roses, on vous offre un crédit illimité. Hein. Il en a bien eu besoin pour traverser sans heurts une année de tempête, l'arrêt du rugby, la crise entre la Fédé et la Ligue, les blessés en pagaille. Peu importe, Fabien Galthié a gardé le cap. Il a construit son équipe malgré les embûches. Il a redonné de la joie au public, même dans des stades vides. Et il a même réussi à faire passer la défaite des Bleus contre l'Angleterre à l'automne pour la plus belle des victoires. Forcément,
c'est vrai.
Oui, c'est ça quand même, c'est magique. Vous poussez le rival de toujours aux prolongations quand vous alignez une équipe B, ouais, bah ça froisse le vainqueur et ça fait redresser la tête du vaincu. On a besoin de figures de référence dans ce monde où tout fout le camp et Fabien Galthié en est une. Les héros ne portent pas forcément de cap, mais ils ont parfois des lunettes d'écaille.
Oui, bon, à tout prendre, j'aurais évité la pandémie et gardé un mauvais rugby. Mais bon, en attendant, aujourd'hui, le 15 de France est favori du tournoi des 6 nations.
Avec les Anglais, hein, on va pas non plus les piquer au vif, c'est le meilleur moyen de s'en mordre les doigts. Mais oui.
C'est drôle ce lapsus sur les droits.
Oui, pardon, je sais pas pourquoi on en parle peu finalement.
Ne nous en mordons pas les doigts.
Mais oui, Fabien Galthié a fait passer ses Bleus de souffre-douleur favoris à candidat au titre. Les entraîneurs étrangers lui tressent des louanges à qui mieux. Hein. Et il est malin, Fabien Galthié. C'est très bien qu'en attirant la lumière, il permet à ses joueurs d'avoir une paix royale. Alors oui, grâce à lui, on est à nouveau gourmand devant le 15 de France. Et on regarde le présent et l'avenir avec sérénité. avouez que c'est pas si courant par les temps qui courent. Fabien Galthié est même convaincu que le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023 doit être France-Nouvelle-Zélande pour mettre les Bleus dans le bain tout de suite. Même pas peur des All Blacks, pas de doute, on a changé d'air.
Oui, on a clairement changé. Le monde change, vous savez, et on est là pour le raconter. Tiens, je voudrais vous parler d'un homme aussi, Virginie Fulpin, après l'édito sport, c'est Mourad Boudjelal. Après son grand succès dans la bande dessinée, son énorme succès dans le rugby, Mourad Boudjelal vient de réaliser son rêve et d'acheter le club de football de hier, en 4e division. Alors on le sait, il avait pour ambition de racheter l'Olympique de Marseille à l'origine, donc il part un peu plus bas finalement. Mais il n'est pas venu tout seul. Il a annoncé le nom de son directeur sportif, un certain Nicolas Anelka, de retour dans le foot français, donc 11 ans après Naïsna. Boudjelal dit avoir été séduit par la personnalité d'Anelka en regardant son documentaire sur Netflix. Bon, étonnant. Et pour les goûts musicaux, il est important, je le cite, de ne pas créer de trop gros écarts générationnels avec les joueurs. Bon, en attendant les résultats du club de hier, on peut saluer la communication de Mourad Boudjelal.
Et puis, moi, j'ai surtout hâte qu'il y ait un match de Coupe de France contre le FC Nantes de Raymond Domenech.
Ah oui.
Voilà, franchement, promesse. Ça, je le noterai
c'est
dans mon calendrier.
C'est pour ça qu'il faut défendre la Coupe de France comme vous le faites depuis le début de l'année. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1 à 7h20. 7h24, nous retrouvons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Se réduire comme peau de chagrin, voilà l'expression du jour. Cela désigne tout ce qui diminue inexorablement. On en a d'ailleurs pleinement conscience et généralement on s'en plaint.
Comme peau de chagrin, le chagrin, on voit tous ce que c'est, mais c'est vrai que le lien avec la peau, j'ai un peu plus de mal à trouver l'explication.
Bon, ne vous en faites pas Mathieu, je m'occupe de tout. L'expression doit sa popularité au célèbre roman de Balzac, La peau de chagrin, en 1831, où une pièce de cuir a le pouvoir d'exaucer des vœux, mais qui se réduit à chaque désir comblé. Je ne vais pas divulgâcher la fin, mais c'est très triste. En fait, le chagrin ici n'a rien à voir avec celui que l'on connaît. Cela vient de sagri en turc, qui désignait la croupe d'un animal. Je ne sais pas si c'est ça qui a donné la peau des fesses, mais certainement il doit y avoir un lien. Au XVIe siècle, on tirait de la peau de sagrin. On parlait alors de l'âne ou de la mule. On en faisait des tambours, des chaussures et même des reliures de livres. Une peau à la fois dure et élastique. Chagrin devenant un mot de plus en plus connu, il remplaça progressivement sagrin. Aujourd'hui, en Grèce, on dit plutôt « fondre comme la bougie ». Chez les Flamands, c'est « s'évanouir en fumée ». Tandis qu'en gaélique écossais, on dit « like snow racing thaw ». Comprenez, se réduire comme des fleurs de givre en cours de dégel. C'est magnifique. Personnellement, je trouve que dans votre matinale, Mathieu, on ne parle pas assez en gaélique écossais.
On va y travailler.
Mais on retrouve finalement fondre comme neige au soleil.
Mais on va y travailler au gaélique écossais. C'est promis, mon cher Stéphane. 16h tout à l'heure, historiquement vôtre.
Oui, alors, on réunit trois personnages. La chanteuse de jazz Billie Holiday, dite Lady Day. La princesse Lady Di, Diana Spencer. Et une autre lady plus récente, Britney Spears. Leur point commun, des ladies traquées, voire détraquées. Traquées par le FBI, par les paparazzi et par leur mère, surtout pour la dernière.
Il y en a une qui a votre préférence, j'imagine, Stéphane.
Oui, c'est Billie Holiday.
À tout à l'heure, 16h, pour Historiquement Vôtre. 7h26 sur Europe 1 dans quelques toutes petites secondes. La météo de Laurent Cabrol, un nouveau journal avec Sophie Echen. Très bon réveil à toutes et à tous. À 7h28, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Un petit découpage si vous le permettez pour que tout le monde soit servi, tous ceux qui nous écoutent, nos amis, les éclaircies vont gagner très vite la Bretagne, puis lentement la Normandie, la Picardie et le Pas-de-Calais, sur les Pays de la Loire si vous habitez également Paris, la Champagne-Ardenne, le centre, c'est une matinée assez grise, sur Paris ne devrait pas pleuvoir, il ne pleuvra pas, mais nous aurons même peut-être quelques rayons de soleil dans l'après-midi, sur le Pays Basque, la vallée de la Garonne, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Provence, la Côte d'Azur, du soleil, en tout cas des éclaircies, et puis un peu de pluie, il y en aura sur le Poitou-Charentes, il y en a déjà d'ailleurs, sur la Gironde, le Limousin, le Loiret, le Morvan, la Lorraine et l'Alsace. Voilà pour le temps, les températures maximales entre 11 et 15 degrés, 15 à Toulouse, 11 à Paris, et en passant par 13 à Rennes et 14 à Bordeaux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, presque 7h30, vous êtes sur Europe 1.
Le télétravail, c'est bien, mais le télétravail a ses limites. Quand je prends le métro, c'est ça qui est assez incroyable, je suis heureuse et je souris. Mais rien que de croiser du monde quand je pars au travail, ça me donne la pêche pour la journée.
Mais de toute évidence, tous les Français ne sont pas prêts à suivre les consignes du gouvernement. Jean Castex a répété hier que le travail est télétravail était impératif. Dans ce journal, Frontex, l'agence européenne des gardes frontières, fragilisée par des accusations d'expulsion illégale. Dernier jour au procès du meurtre de Tony, ce petit garçon de 3 ans mort sous les coups de son beau-père. Et puis appelée là, Maestra, une jeune chef d'orchestre vénézuélienne est en train de révolutionner la musique classique et tout le monde se l'arrache.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Fabrice Leggeri, directeur de Frontex, l'agence de garde frontières de l'Union européenne, en exclusivité ce matin dans le tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique de Nicolas Bétou avant 8h. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On vous en parlait il y a deux jours dans ce journal. Le renforcement des contrôles dans les entreprises pour s'assurer de la bonne pratique du télétravail. Eh bien, les inspecteurs risquent d'avoir du boulot, car si Jean Castex l'a redit hier soir, télétravailler partout où c'est possible devient impératif. La consigne est de moins en moins respectée depuis plusieurs semaines.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Évidemment, la règle fixée par le gouvernement est compréhensible. Cela permet de freiner la propagation du virus. Mais dans les faits, le 100% télétravail commence à peser sur le moral des troupes.
Oui, de nombreux salariés ont apprécié depuis quelques semaines cette possibilité de revenir sur leur lieu de travail 1, 2 ou 3 jours par semaine. Et ce retour en arrière qui s'annonce ne réjouit pas Edith. Elle travaille dans la communication et a déjà passé l'année 2020 en télétravaillant presque à 100%.
Quand je prends le métro, c'est ça qui est assez incroyable, je suis heureuse et je souris. Mais rien que de croiser du monde quand je pars au travail, ça me donne la pêche pour la journée. De savoir qu'on a la possibilité de revoir nos collègues, de discuter, de reprendre finalement une vie normale de temps en temps, c'est inestimable. Le télétravail, c'est bien, mais le télétravail a ses limites.
De la lassitude pour Edith, mais des conséquences bien plus lourdes pour d'autres. C'est ce que constate Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre.
J'ai vu des salariés avoir des crises de panique pendant les situations en 100% télétravail. Ceux qui ont eu la possibilité de revenir 2-3 jours par semaine sur site et qui trouvent une grande satisfaction, je dirais le cauchemar de retourner à 100% télétravail, parce qu'on a quand même eu énormément de retours de gens en souffrance. Je pense notamment à tous ces jeunes qui font du télétravail 3, 4, voire maintenant 5 jours par semaine dans 12 mètres carrés.
Des situations prises en compte par le gouvernement qui n'entend pas revenir sur le protocole qui permet aux salariés un jour de présence par semaine quand ils en font la demande.
Les explications d'Aurélien Fleureau. L'appel ce matin de l'Organisation mondiale de la santé. L'Europe doit s'unir pour accélérer la vaccination contre le Covid. L'OMS s'inquiète du risque des variants sur l'efficacité des vaccins.
Parlons de l'Europe justement. L'Union européenne refoule-t-elle illégalement les migrants qui frappent à sa porte?
C'est en tout cas ce qu'affirment les ONG depuis plusieurs mois. Elles ont recensé plus de 900 cas dans ce qu'elles appellent un livre noir et pointent du doigt certains pays comme la Hongrie, Malte ou la Grèce.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, les ONG accusent aussi Frontex, l'agence européenne des gardes frontières. D'ailleurs, le Parlement a décidé de mener l'enquête.
Oui, les députés veulent aller au fond des accusations qui visent l'agence européenne au moment où elle monte en puissance, justement. Son budget a augmenté, elle pilote désormais le corps européen des gardes-frontières. Ils doivent être 10 000 sous 3 ans. Or, Frontex est accusé de fermer les yeux quand les Grecs ou les Maltais refoulent des migrants vers la Turquie ou la Libye sans leur laisser la possibilité de demander l'asile. L'élu écologiste Damien Carême veut que la lumière soit faite.
Au large de Malte, des bateaux maltais ont refoulé des canaux sur lesquels il y avait des exilés à bord et, paraît-il, les gardes frontières de Frontex étaient à côté et ne sont pas intervenus. Pareil, en mer Égée, on a des signalements quand même importants d'ONG et de civils qui témoignent derrière. Et comme les réponses qu'on a eues dans les différentes auditions ne sont pas satisfaisantes, le doute s'installe, donc on va essayer d'avoir des éclaircissements là-dessus.
Le conseil d'administration de l'agence qui en assure le contrôle a lui aussi ouvert une enquête. Un premier rapport a été remis il y a 2 semaines. 13 incidents impliquant des migrants en Méditerranée ont été passés à la loupe. Dans 8 cas sur 13, Frontex a été exonéré. 5 cas restent à éclaircir. Le rapport définitif est attendu pour la fin du mois.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Et je vous le disais, pour la première fois, le directeur exécutif de Frontex va répondre à ces accusations sur Europe 1, juste après ce journal.
5e et dernier jour d'audience au procès Tony aujourd'hui. Le petit garçon est mort il y a 4 ans, battu par son beau-père. Et hier soir, Marion Dubreuil, les associations de protection de l'enfance, partie civile au procès, ont commencé à plaider.
Avec une obsession, rappeler aux jurés qu'ils sont là pour rendre justice à un petit garçon de 3 ans et demi, Tony, dont ils ont découvert le corps couvert de bleu, le visage tuméfié. Chaque trace sur ce corps est un coup, chaque coup est une souffrance sans nom, a plaidé Rodolphe Costantino pour Enfance et Partage. Sa consœur Melinda De Vidal, qui représente la voix de l'enfant, a demandé à la cour de garder en mémoire les photos du petit blondinet aux yeux bleus, souriant.
C'était important de rappeler aux jurés que Tony était un petit garçon vivant, qui souhaitait vivre,
dans la joie et que cette joie, malheureusement, sa mère et son beau-père la lui ont retirée.
L'avocat général devrait rendre ses réquisitions dans la matinée. Le beau-père de Tony, responsable des coups, actuellement en détention provisoire, encourt 30 ans de prison. La mère, qui comparaît libre, pourrait retourner derrière les barreaux pour ne pas avoir protégé son fils. Oui, elle risque 5 ans de prison.
Marion Dubreuil qui suit ce procès depuis le début de la semaine pour Europe 1. Aux États-Unis, Joe Biden appelle à la fin de la guerre au Yémen. Le président américain prononçait hier son premier discours de politique étrangère. Il annonce l'arrêt du soutien et des ventes d'armes des États-Unis à la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite dans le pays. Donald Trump, lui, ne témoignera pas à son procès en destitution. Il démarre mardi prochain. La procédure est contraire à la Constitution, selon son équipe. L'ancien président est accusé d'incitation à l'insurrection après l'invasion du Capitole en janvier.
Et puis on quitte ces questions pour terminer ce journal sur un conte de fées. Celui que vit en ce moment une jeune chef d'orchestre vénézuélienne.
Glass Marcano, 24 ans, est prodige de la musique classique. Elle est arrivée en France il y a quelques mois. Elle révolutionne le secteur avec sa façon de diriger très intuitive, loin des cadres. C'était un rêve d'enfant pour cette jeune femme issue d'une famille pauvre. Et aujourd'hui, les orchestres français se l'arrachent, lors d'Autriche.
Face à l'orchestre, Glass Marcano dirige comme un diable qui sort de sa boîte avec une énergie folle. Son charisme a envoûté les musiciens lorsqu'elle s'est présentée au concours de chef d'orchestre réservé aux femmes, il y a quelques mois à Paris, où elle a reçu le prix spécial de l'orchestre. Elle vendait des fruits au Venezuela avec ses parents et deux jours plus tard, elle était à Paris. Sans argent pour payer le billet d'avion, elle a voyagé à bord d'un vol humanitaire. Elle ne parle encore ni anglais ni français, mais elle réussit quand même à communiquer avec les musiciens.
Je me suis dit comment je vais faire. Et puis j'ai fait comme au Venezuela, je me suis mise à chanter.
Grandioso.
Et puis ça passe aussi par le regard. J'ai appris la musique avec El Sistema au Venezuela, qui prête gratuitement des instruments aux enfants défavorisés. Je n'ai pas une technique classique, mais c'est ça aussi la musique, transmettre une énergie.
Glass Marcano poursuit aujourd'hui ses études à Paris. Elle donnera son premier concert en France demain avec l'orchestre de Tours.
Un portrait signé Lord d'Autriche. Magnifique,
magnifique,
effectivement.
À la fois l'histoire et le portrait de Lord d'Autriche. Je l'ai dans la tête.
Ça marque. Hein.
Ah ouais, ça marque.
C'est le soulagement aussi pour les clubs de foot français. C'est finalement Canal+.
Là, c'est pas
qui... Bien, vous faites bien.
Ah, je l'ai aussi.
C'est donc Canal+, hein, qui rachète les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Au bout d'un bras de fer interminable avec la Ligue de foot professionnelle, la chaîne cryptée diffusera donc le match OM-PSG dimanche soir. Et puis juste un petit mot de ski de boss avec le carton plein pour Perrine Laffont. La Française championne olympique poursuit son sans faute en Coupe du Monde avec une quatrième victoire hier lors de l'étape de Deer Valley, c'est aux États-Unis.
J'arrête les bruitages, hein. Le ski de boss, on aurait pu pourtant. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30, il est 7h37. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et tout de suite, votre nouveau rendez-vous de la matinale, La Touche Âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J'ai deux nouvelles. La première, c'est que le dessinateur Viandox a tenté de rentrer dans le studio. La deuxième, c'est qu'il a réussi. Oui, ce sont deux mauvaises nouvelles.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, nous retrouvons Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on a tout fait pour l'en empêcher et pourtant il est dans ce studio. Figure de proue du « on ne peut plus rien dire », le dessinateur Viandox est de retour avec nous ce matin.
Salut la compagnie, c'est Viandox, le caillou dans la chaussure des puissants, un regard décalé sur l'actu, le strabisme de l'info. Laissez-la bien pensant ce vestiaire et accrochez vos ceintures, on part à 160 sur l'autoroute de l'humour corrosif.
Attention, pardon, je n'ai pas le souvenir de vous avoir invité ce matin dans ce studio, Viandox.
Non, mais j'ai profité d'un petit moment d'inattention de la sécurité d'Europe 1, je me suis faufilé derrière Vincent Hervouet pour passer le portique. Bref, vous pouvez peut-être dire un mot de mon bouquin, là, je voulais apporter.
Alors oui, alors vous publiez « Peut-on rire de Toul ?» aux éditions à compte d'auteur, oui, un recueil de dessins d'actualité engagés. Pourquoi ce titre ?
Je savais que ça vous plairait. Toul, c'est un clin d'œil à la Lorraine et au rythme où on va, j'imagine que bientôt on pourra même plus faire de blagues sur les quiches, d'où ce titre « Peut-on rire de Toul ?» C'est une sorte de dystopie.
D'accord, d'accord. Alors depuis votre venue la semaine dernière, vous avez été appelé par des rédactions ?
Écoutez, c'est plutôt calme de ce côté-là. Alors après, je me mets à leur place. Hein. Engager un poil à gratter comme moi, ça peut faire peur. Parce que bon, bah, quand j'y vais, j'y vais. Bah, d'ailleurs, je suis venu avec mes feuilles, mon feutre et mon espièglerie. Si vous avez deux minutes, je vous croque un peu l'actu de la semaine.
Alors, cela dit, ça aurait été un vrai plaisir. Hein, mais on est un tout petit peu pressé par le temps.
Super. Alors, vous avez peut-être entendu, la PETA, l'Association de défense des animaux, demande d'arrêter d'utiliser des noms d'animaux comme insultes, comme poule mouillée, gros porc, paresseux. Ouais. Selon eux, c'est oppressif pour les bestioles. Alors, ça m'a inspiré une petite bêtise. Alors, d'un côté, je dessine des humains, voilà, comme ça, les jambes. De l'autre, des animaux. Et les animaux disent aux humains, « Eh oh, les humains, la ferme !» rapport aux animaux. Ah, j'ai bonne mine, hein, cette semaine. Hein. Allez, un autre.
Vraiment ?
Ouais, allez. On nous a annoncé la multiplication des contrôles de police autour du couvre-feu, donc je dessine plein de ministres de l'Intérieur, et le titre, couvre-feu, Beauvau présente, les 101 Darmanin. Voilà. Ah, je fais vraiment feu de tout bois. J'ai une de ces patates.
Merci, Viandox.
Allez, un petit dernier. Les scooters n'ont plus le droit de rouler en interfil à Paris. Bravo, Hidalgo. Alors, il y a un type en scooter qui râle et qui dit « Interfil, c'était quand même mieux quand c'était Guy Lux qui s'en occupait. » Parce que ça sonne comme des bites.
Super. Merci, Viandox.
Sinon, après le variant anglais, le variant brésilien, le Olivier variant, non ?
Non, stop. Viandox. Alors là, stop, je vous le dis, avec beaucoup de tendresse. Vous êtes mauvais.
Oh, quelle déception. Sous ces airs de hippie se cachait donc un vendu. Ah, c'est du joli. J'ai mal à ma liberté d'expression. Ah, si Coluche voyait ça, bah. Embrasse mon Gainsbard, puisque c'est comme ça je m'en vais. Mais la tête haute et le feutre fier. Et je vous dis pas au revoir parce qu'on se reverra.
Merci. Bertrand Chamerois, la touche âme tous les matins, 7h40 sur Europe 1. Et à 10h, avec Philippe Vandel dans Culture Média. Cela dit, j'ai l'impression que Bertrand Chamerois arrive à recycler les blagues qu'il n'ose pas assumer dans Viandox.
Vous avez tout compris.
Je vous dis qu'il y a les chutes de la semaine qui tombent le vendredi. Merci Bertrand Chamerois. À tout à l'heure avec Philippe. Il est 7h42 sur Europe.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveil. La libération de la parole. Ne manquez pas ce témoignage sur Europe 1. La libération de la parole et ces affaires d'inceste qui font la une. Un député à 8h15, Bruno Ketel, élu de l'Eure. La semaine dernière, il a raconté son vécu enfant. Ce matin, il témoigne au micro de Sonia Mabrouk. Dans un instant, l'agence de garde frontière de l'Union Européenne, dans la tourmente, accusée d'avoir refoulé des migrants illégalement. Fabrice Leggeri, directeur de Frontex, est avec nous dans le tête-à-tête Europe Matin. Je tiens aussi à ce qu'on parle du déploiement de 10 000 hommes et femmes avec un uniforme commun au sein de l'Union Européenne. C'est parfaitement historique. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h44 sur Europe 1. Frontière. Le mot prend un nouveau sens ces derniers mois. À l'heure où la libre circulation des personnes est suspendue en Europe, Frontex dévoile son bilan 2020. L'Agence européenne de garde frontières et de garde côtes. Et nous tirons ce matin des perspectives en temps de Covid. Frontex, également au cœur des polémiques, accusé d'expulsions illégales. Sa parole est rarissime et il est en studio avec nous ce matin. Le directeur exécutif de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour. Bonjour Fabrice Leggeri.
Bonjour.
Vous avez choisi Europe 1 ce matin pour vous exprimer, pour répondre aussi aux accusations, aux reproches qui vous sont faits. Et nous voulons connaître vos analyses. Mais d'abord, votre bilan 2020, une année parfaitement sans précédent en temps de Covid. J'imagine que vos chiffres sont marqués par la pandémie.
Alors nos chiffres sont quand même importants dans la mesure où nous avons maintenu tous les jours 1000 garde-frontières et garde-côtes déployés aux frontières extérieures de l'Union européenne, principalement en appui à la Grèce, à l'Italie et à l'Espagne, et pendant toute la période du Covid. Donc il n'y a pas eu d'interruption. Nous avons aussi, en 2020, aidé les États membres de l'Union européenne à éloigner 20% du total des étrangers en situation irrégulière qui ont été éloignés de l'Europe vers les pays tiers. Ça représente à peu près 12 000 personnes qui ont été éloignées. Pour nous, c'est un record. 20% en 2020, c'est notre part d'activité. C'était 10% en 2019. Et il y a 5 ans, c'était 1,5%. Mais nous avons aussi, au titre du bilan, beaucoup d'autres actions. Je tiens tout d'abord à dire que nous continuons à sauver des vies humaines en mer. Et par exemple, en 2020, ce sont plus de 13 000 personnes, 13 000 migrants que nous avons sauvés de la noyade en mer Méditerranée.
Et sur l'année qui démarre, il y a une préoccupation particulière sur les trafics. À un moment, les frontières de l'Union européenne vont se rouvrir et cette question, vous la surveillez de près, particulièrement en lien avec la pandémie.
Alors absolument, nous sommes également compétents pour aider les États à lutter contre tous les trafics de nature criminelle. Et nous sommes particulièrement attentifs à des trafics de médicaments, à des trafics de matériaux sanitaires comme des masques, etc. Et des faux documents d'authentification sanitaire. Donc ça, c'est une criminalité qui va aller en augmentant. Mais au titre du bilan de 2020, nous avons par exemple interpellé 750 passeurs de migrants irréguliers faisant du trafic d'êtres humains. Nous avons interpellé 450 trafiquants de drogue aux frontières extérieures. Nous avons contribué à saisir 147 tonnes de drogue, 38 millions de cigarettes. Nous avons aussi saisi 146 armes et au total, près de 4000 faux documents, des faux documents d'identité. Donc finalement, ça montre que nous sommes, sur toutes les activités qui sont à la frontière, c'est détection et traitement de l'immigration irrégulière, mais aussi lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, y compris d'ailleurs la menace terroriste. Et puis, avec la pandémie, évidemment, des formes nouvelles de contrôle qui doivent être effectuées aux frontières et qui, sans doute, dans les années futures, vont aller en se développant, les contrôles sanitaires, les contrôles de documents liés au statut sanitaire des personnes.
Alors, nous sommes ce matin avec vous, Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, et je me pose une question. Nous sommes arrivés au mois de février, le 5 février précisément. Depuis le 1er janvier, vous avez entamé le déploiement de 10 000 hommes et femmes en Europe. Un corps défend les frontières avec un uniforme commun. Pas de drapeau national, on parle du drapeau bleu avec les étoiles dorées, bien sûr. C'est un pas gigantesque. Pourquoi est-ce que personne n'en parle ?
Bien, c'est une nouveauté, c'est une métamorphose. Nous avions déjà des opérations de Frontex, je vous disais 1000 personnes l'année dernière sur le terrain, mais le modèle ancien, c'était de déployer des policiers, des gardes-frontières, des gardes-côtes qui venaient des États européens, mais qui ne venaient pas de Frontex lui-même. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier 2021, nous sommes en train de mettre en application le corps européen, qui est un objectif avec 10 000 personnel à l'horizon de 2027, dont notamment un noyau dur de 4 500. Ça, c'est pour 2027. Mais aujourd'hui,
je veux dire, c'est que c'est historique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la cérémonie, l'inauguration, la présentation de cet uniforme sur toutes les chaînes de télé? Je veux dire, est-ce que c'est assumé par l'Union européenne?
Alors, d'abord, il y a la pandémie qui fait qu'il était un peu compliqué de déplacer beaucoup de personnalités avec des journalistes aux frontières extérieures. Et puis, il y a un climat de critiques qui font que, voilà, il faut parfois d'abord rendre compte, je dirais, et c'est normal, hein, politiquement, pour que les autorités sachent
oui.
exactement
ce qui se passe. Précisément, ce matin, on est entre votre rôle à la tête de cette agence européenne qui répond, je le précise, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, qui répond d'un conseil d'administration qui est composé des États membres et de la Commission européenne. Je voulais vous parler de la Commission parce que si vous prenez la parole aujourd'hui, c'est aussi pour répondre à des accusations graves qui sont faites à votre encontre. Et c'est la première fois que vous y répondez. Le pushback, le refoulement des organisations non gouvernementales et des médias accusent Frontex d'avoir illégalement refoulé des migrants, leur empêchant ainsi de déposer des demandes d'asile. Avez-vous, Frontex, permis, encouragé, laissé faire pratiquer ce refoulement de migrants ?
Non, il y a des enquêtes qui sont en cours et c'est normal que l'on ait à rendre compte à l'autorité politique, c'est tout à fait normal, puisque Frontex, avec cette métamorphose que devient le corps européen, nous devenons une force de police. Et donc, comme toute force de police, évidemment, il s'agit de rendre compte à l'autorité politique. Mais au cas d'espèce, il faut comprendre que lorsqu'on n'est pas dans des situations de secours en mer, qu'on n'est pas dans des situations de détresse en mer, eh bien, nous sommes dans l'interception des trafics. Nous sommes dans la lutte contre les trafics. Et il y a des trafics d'êtres humains et il y a des règles européennes et des règles internationales du droit de la mer qui permettent de faire des interceptions. Et c'est ce qui nous a été demandé de faire en Grèce, en tout cas de coopérer avec les autorités des gardes-côtes grecques de façon à ce qu'on puisse non pas faire des éloignements illégaux, mais au contraire, en application du droit européen et du droit international, notifier à des bateaux suspectés d'activités criminelles qu'ils doivent changer leur cours. Mais je précise qu'il ne s'agit pas d'empêcher des personnes de demander l'asile si elles en avaient le désir. Il s'agit d'éviter que ces personnes fassent l'objet de trafic et il s'agit de les orienter vers les lieux où peuvent être réalisés les contrôles. Tout le monde aussi leur garantie.
Tout le monde n'est pas de cet avis, à Bruxelles en particulier, ou même à Luxembourg. La Cour de justice européenne vient de condamner la Hongrie pour inhumanité politique d'asile, pour refoulement vers la Serbie. Frontex a retiré ces hommes de Hongrie, c'est une première historique. Est-ce que vous avez fermé les yeux en Hongrie ou même participé au refoulement de migrants vers la Serbie ?
Non, il y a eu en décembre 2020 un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne qui a conclu que la loi hongroise sur l'asile n'était pas conforme au droit européen. Depuis 2018, il y avait une procédure d'infraction, donc la Commission européenne avait saisi la Cour de justice pour faire vérifier si la loi hongroise était conforme ou non. Et à partir de ce moment-là, Frontex avait diminué au minimum possible la présence et nous avons fait en sorte de ne pas
contribuer à des actions qui pourraient être illégales.
Aujourd'hui, vous pouvez dire, assumer, assurer sur Europe 1, tout ce que nous avons fait est légal, conforme aux règles de l'Union et aux prérogatives de Frontex ?
C'est tout à fait notre souci, c'est d'abord d'agir dans le cadre de notre mandat, qui est un mandat de contrôle et de surveillance des frontières pour aider les États membres de l'Union européenne. C'est un mandat évidemment en parfaite conformité avec le droit, les droits fondamentaux et les droits de l'homme, droits humains. Et donc nous avons aussi un système de moniteurs des droits fondamentaux. Tout ça est en train de se déployer avec le déploiement du corps européen. Donc il y a des garanties, il y a un cadre légal, il y a des codes de bonne conduite éthique, il y a des règles et c'est tout à fait normal que les gardes-frontières aient à en répondre.
Alors, mais sur ce dossier, vos échanges ont pu être particulièrement tendus avec la Commission européenne. C'est pour ça que je vous pose ces questions et que j'essaye d'être le plus précis possible. Est-ce qu'on peut au moins pointer qu'à défaut d'illégalité, il y a une question morale qui se pose et donc politique ?
Non, je crois qu'il est tout à fait normal de répondre à des interrogations politiques, et je crois que l'autorité politique doit avoir la certitude que tout se fait de façon conforme, comme je vous le disais, c'est le cas de toute force de police qui doit rendre compte de ses actes. Maintenant, il y a une nouveauté...
Je vous dis ça parce que la commissaire suédoise aux affaires intérieures demande toujours que toutes les analyses nécessaires soient fournies, même si une partie des enquêtes a déjà été révélée. Pour elle, je la cite, il faut rétablir la confiance dans l'agence. Fabrice Leggeri, entre Frontex et la Commission européenne, c'est technique, mais j'insiste, la confiance est rompue ?
Non, je crois qu'il faut voir que nous avons tous affaire à une métamorphose très importante de l'administration européenne. L'agence Frontex était, il y a peu de temps encore, une agence de nature administrative, de conception, qui organisait et finançait le déploiement de gardes-frontières par les États membres. Aujourd'hui, dans cette métamorphose, nous sommes en train de devenir une force de police européenne. Le corps européen, c'est aujourd'hui 500 agents publics européens qui sont directement employés par Frontex, qui sont en uniforme, qui vont se déployer dans les prochains jours avec des armes, ils ont le droit de contraindre d'usage de la force. C'est une métamorphose très importante.
C'est vous qui menez ces hommes et femmes ?
Ce sont des hommes et des femmes qui sont formés, qui sont recrutés par Frontex, qui travaillent aux côtés d'autres gardes-frontières et gardes-côtes qui sont mis à disposition par les États membres.
C'est vous qui allez continuer, Fabrice Leggeri ?
Et ce sont des personnels qui agissent sous le commandement national des pays où nous les déployons, mais nous avons un plan opérationnel qui est conclu avec l'État hôte. Donc en fait, nous avons une co-responsabilité, même si la responsabilité première du commandement reste nationale, parce que nous avons des États souverains.
Je quitte la Commission européenne, mais sur ces dossiers, sans rentrer dans tous les détails, en Allemagne, par exemple, la ZDF promet des révélations pour ce soir. Il y a même un site internet avec un compte à rebours qui annonce 12h et quelques minutes avant de nouvelles révélations. On se demande ce qui peut sortir. Dans le même temps, il y a l'organisme antifraude de l'Union européenne, l'OLAF, qui enquête sur vous, les fameux refoulements, votre gestion, des accusations de harcèlement au sein de votre cabinet. Fabrice Leggeri, est-ce que vous avez le sentiment qu'on cherche à vous affaiblir ?
Moi, je crois qu'en tout cas, il faut, comme je le dis, prendre la mesure de cette métamorphose, qui est une nouveauté pour l'Union européenne. Tout le monde doit s'habituer à voir des uniformes européens avec des armes à feu, avec l'usage de la force.
Mais à qui vous vous adressez quand vous dites « tout le monde doit s'habituer » ?
Eh bien, il y a probablement une espèce d'accoutumance culturelle, une métamorphose culturelle qu'il faut faire également parmi les institutions de l'Union européenne. Moi, je voudrais aussi saluer le travail que nous faisons conjointement avec la Commission européenne depuis un an et demi sur ce dossier. Ce n'est pas facile. Il y a des questions qui sont quand même assez complexes. Comment est-ce qu'on organise l'usage de la force ? Comment est-ce qu'on organise le déploiement des armes à feu quand on est un agent public européen ? Donc moi, je préfère voir le côté positif qui est de dire c'est une métamorphose importante et que ensuite que ça coince un petit peu, que ça crisse un petit peu parce que c'est quelque part un peu un séisme mental. Oui, eh bien ça peut effectivement surprendre parce que nous avons pour la première fois l'Union européenne qui se dote d'un visage opérationnel, d'un uniforme, d'armes à feu qui devient d'une certaine façon l'Europe qui protège et d'une certaine façon commence à avoir un peu les attributs d'une puissance.
Oui ou non, parce qu'on a terminé. Il n'y a pas de lettre de démission qui est en cours de rédaction.
Non.
Merci beaucoup Fabrice Leggeri. Vous avez choisi Europe 1 ce matin pour répondre à toutes ces accusations. Répondre au nom de Frontex et des hommes et des femmes qui composent Frontex sur Europe 1 ce matin en exclusivité. Merci mille fois, 7h56. L'édito politique de Nicolas Bétou dans quelques toutes petites secondes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h57, déjà, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Emmanuel Macron a donné hier le coup d'envoi de son plan cancer.
Un plan doté de 1,8 milliard d'euros de crédit, soit une hausse de 20% pour une baisse de 60 000 cas par an. Formidable objectif, formidable cause, perpétuée président après président. On se souvient que Jacques Chirac en avait fait une priorité nationale. Et pourtant, malgré ces chiffres, malgré cette volonté présidentielle, pas sûr que ces annonces marquent beaucoup l'opinion publique.
Pourquoi ?
Eh bien parce qu'elles ne sont qu'une parmi d'autres et qu'une annonce chasse l'autre. C'est un vrai problème pour l'exécutif. Alors que l'activité gouvernementale a été entièrement focalisée sur la lutte contre le Covid depuis un an, la perspective dans les mois qui viennent de retrouver une vie un peu moins contrainte dope les ardeurs des ministres. Ils veulent tous ou presque avoir leur loi ou leur grand projet avant la fin du quinquennat. Bon, ben c'est l'embouteillage, sauf qu'il faut d'abord écluser tous les textes qui sont déjà programmés au Parlement. La loi sur le séparatisme qui est en cours actuellement, la loi sur la sécurité globale, celle sur la bioéthique qui va revenir du Sénat profondément amendée, et puis celle sur le bien-être animal, sur le climat, plusieurs textes compliqués donc, et plus une place avant l'été. Après, à l'automne, bah, il deviendra très difficile de trouver un créneau pour adopter une réforme.
Parce qu'on se rapprochera de la fin du quinquennat.
Exactement. Ouais. Et donc, ça bagarre sec entre les ministres qui, comme on dit, veulent marquer leur passage dans leur ministère, en fait, qui veulent donner leur nom à une loi. J'ajoute qu'il faudra aussi compter avec les lois de circonstance, ces textes qui fleurissent au gré de l'actualité, qui sont censés répondre en urgence à un fait divers ou à un quelconque dysfonctionnement. Et puis, j'ajoute encore tout ce qui relève de la volonté présidentielle et qui peut venir charger un peu plus le calendrier gouvernemental. Tenez, un exemple, Emmanuel Macron cherche à relancer son action pour l'égalité des chances. Il veut en faire un marqueur de son mandat, et des propositions nouvelles vont fleurir, et des annonces nouvelles vont fleurir, et chasser, jour après jour, les précédentes.
Bon, mais après, est-ce que ce n'est pas habituel, Nicolas, en fin de mandat ? Est-ce que ce n'est pas une façon pour le président de la République de construire son bilan ?
Mais si, bien sûr, mais la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que cette accumulation de textes laissera une trace ? Est-ce qu'une réforme ressortira plus que les autres ? Au moment du bilan politique, ce n'est pas le nombre de lois votées ou annoncées qui pèsera lourd, mais le sens d'une ou deux grandes transformations, si possible réussies, du pays.
Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Et nous retrouverons Nicolas Canteloup, bien sûr, à 8h45 pour la revue de presse. Merci Nicolas Bétou. 7h59, Laurent Cabrol avec nous. La météo.
Oui, c'est une journée modérément nuageuse et modérément pluvieuse. Mais enfin, il y aura des pluies sur le Poitou-Charente, le Limousin, le Centre, le Morvan, le Loiret, la Lorraine et l'Alsace. Les températures se situeront entre, disons, 11 et 15 degrés dans le coin de l'après-midi. Je vais un petit peu vite sur aujourd'hui parce que je voulais vous dire que demain, samedi, sera une journée vraiment dans l'ensemble assez pluvieuse, notamment sur Paris, notamment sur l'Est, le Sud, avec dans ces contrées, pas mal de pluies. Les pluies gagneront la vallée de la Garonne, elles gagneront aussi le Poitou-Charente dans le courant de la journée. C'est pas terrible cette journée de samedi avec une baisse des températures. Dimanche, ça sera un petit peu mieux, mais il pleuvra encore sur une bonne moitié nord. Et de vous dire enfin, pour terminer, que je vous avais promis le retour du froid et d'un temps sec pour aujourd'hui. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, mais je me suis trompé. Donc, nous allons avoir du froid, mais avec de la pluie. Et encore de la pluie.
Voilà. Ah mince. Merci quand même, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.